Bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis accompagné de Michael. Oui, tu dis oui. Bonjour. Le monde ne te voit pas. Fait que c'est sûr que tu es juste chez la tête passée. Mais ça va bien.
Oui, ça va bien. Toi?
Oui, ça va très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler du WAF dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est? Tous les avantages que ça comporte, dont le virtual patching, dont tous les éléments de défense que ça comporte. Et ce n'est pas, même si c'est inclus dans le nom d'un firewall, Web Application Firewall, ce n'est pas qu'un vulgaire firewall comme on le voyait historiquement. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus évolué et qui est une pièce de défense qui est très importante et même vraiment centrale à comment les infrastructures du web maintenant sont structurées. Je vais te laisser passer avec ça, puis après ça, bon, on va voir où ça va nous mener.
Je dirais qu'on passe sur un long sujet. Là. J'espère que t'es attaché pour celle-là.
Mais j'ai attaché Mathieu qui fait froid, fait que Mathieu qui est bien attaché. Là.
C'est bon. Mais pour commencer, pour vrai, puis moi, c'est un petit peu quelque chose qui me révolte de plus en plus. Pour vrai, là, je suis rendu, comme qu'on jasait justement juste avant la rencontre, je suis rendu au stade que je veux en faire un talk, je veux en parler. Je trouve que c'est un sujet qui est comme... Puis je parle pas dans le sens d'en parler pour vendre un produit, mais d'en parler pour informer les gens que... On dirait qu'il y a comme une... Il y a une façon populaire d'en parler, si on peut dire. On dirait que pour bien du monde, juste le mot pare-feu ou le mot firewall, on dirait que ça décoche une connaissance interne qui est comme « Ah oui, la patente pour fermer des ports, ouvrir des ports. » c'est à peu près ça. Là. La réaction cliente là, quand tu rencontres quelqu'un et tu leur parles de ça, là, on dirait que c'est comme les 1 et les 0 qu'on ne peut plus. Là. C'est juste genre comme on n'a aucune idée de quoi qu'on parle. Là, comme, puis ben souvent, je me rends compte que plus en plus que j'explique comment que ça fonctionne, comme que je vais en profondeur, là, le monde commence à comprendre. Mais on dirait que c'est comme une éducation qui est comme pas présente de comme à quoi ça sert un WAF tout court. Tu sais, c'est comme ah oui, j'ai besoin d'un WAF ou ah oui, j'ai besoin d'un pare-feu, mais comme pour faire quoi exactement? Pour à quoi ça sert? Comme on dirait que ce bout-là là, de l'information, il est comme pas présent. On dirait que c'est comme inexistant. C'est juste comme ah, j'ai ça sur ma to-do list, faut que j'en achète un ou faut que j'en mette un en place. Que ce soit pour de la conformité ou pour ci ou pour ça, là, c'est comme. Quand qu'au final,
c'est n'importe quoi. Pour mon avis, c'est n'importe quoi. C'est malheureux que les gens ne savent pas tous les avantages que ça comporte, tout d'avoir un WAF disponible, d'avoir cet équipement-là qui est très important dans nos infrastructures modernes qui sont web. Le fait que il n'y a pas de compréhension, puis on parle encore de fermeture ou d'ouverture de passe. Come on, là.
Ben, c'est ça qui est malheureux, c'est que pour la plupart du monde, on dirait que c'est juste ça. Puis, dans un sens, c'est vrai, c'est un petit peu, c'est une restriction du trafic. C'est une barrière virtuelle là, qui vient juste genre dire, ben, OK, ce port-là passe pas, celui-là il passe, puis blablabla, qui gère le trafic. On est tous d'accord, c'est ça le but d'un pare-feu. Mais là, si on va plus loin, puis on tombe dans Web Application Firewall, ce qui veut dire un pare-feu web applicatif. Bon, il y a une grosse différence déjà en partant, parce que là, on n'est vraiment plus à la même couche du tout. On n'est pas là juste pour dire « Hey, le port, il marche ou il marche pas. » On est là pour gérer ce qu'on appelle au niveau protocolaire. Sur la couche de transport, là, on vient plus juste dire « Ben écoute, ça passe plus. » On est là pour dire « Ben écoute, oui, tu passes, mais tu vas pas juste passer parce que tu as le droit de passer. Tu vas passer parce que tu as passé plusieurs checks, on peut dire. Tu viens d'une source fiable. Tu m'envoies des ce qu'on appelle dans le web, exemple, des headers qui font du sens ou des entêtes HTTP qui sont pas un bordel ou qui sont pas... tu sais, que c'est pas du n'importe quoi ou que c'est pas ça n'a pas été répertorié, exemple, provenant d'un outil de sécurité parce qu'on s'entend, aussitôt qu'on met quelque chose en ligne aujourd'hui, c'est presque automatique que si tu es sur le web, il y a un outil de sécurité qui va cogner à ta porte et qui va se faire un malin plaisir de démolir ton application ou de trouver des portes ouvertes.
Okay. 15 minutes. Ça prend 15 minutes après qu'un IP soit on avant que tu te fasses scanner puis que tu commences à te faire attaquer. Puis ça prend, puis les red teamers, puis là, sûrement que plusieurs vont se reconnaître, ça prend 5 heures avant de casser une infrastructure. Fait que 15 minutes pour se faire détecter, 5 heures avant de réussir à commencer à rentrer dans tes systèmes, c'est l'asile. Puis j'étais à une conférence la semaine dernière. Là, c'est sûr qu'au moment où ça va être diffusé, c'est pas la même chose, mais bref, la semaine dernière, au moment où on enregistre, j'étais à Objectif by the Sea. Mm-hmm. Justement, j'avais une des personnes du Mitre Attack qui était présente, qui justement parlait de ces éléments-là. Et une des questions que j'ai trouvées très intéressante dans l'audience, parce que le Mitre Attack sert à répertorier ce que les malveillants font. Puis la personne a dit, oui, mais les red teamers sont plus costaud que ça. Est-ce que vous allez répertorier les attaques que les red teamers font? La réponse a été non, parce que c'est beaucoup trop épeurant ce qu'on voit de ce côté-là.
Exact, c'est totalement vrai. Puis même peut-être pour en rajouter, là, tu me fais penser à quelque chose, un test que j'ai fait, je pense, il y a 10 ans déjà. Je pense que, tu sais, là, quand Windows XP était sur le bord de prendre la poubelle, puis c'est quoi qu'on a eu après? C'était Vista, whatever, là. Bref, je me rappelle plus, j'ai oublié tellement que j'ai oublié comment que t'as une idée de comment que Microsoft est haut dans mon estime, j'ai déjà oublié leurs produits ou leurs échecs. J'ai déjà fait le test pour vrai là, de me formater un ordinateur avec Windows XP. J'installe pas d'antivirus, j'installe rien, je fais juste formater. Je laisse l'ordinateur ouvert sans rien installer, sans rien faire. Je lui ai laissé une soirée. J'ai même pas eu le temps que la soirée se termine. Je suis revenu, puis l'ordinateur avait été hijacké au grand complet. Fond d'écran changé avec des alertes, des pop-up. J'ai fait absolument rien. J'ai juste laissé la machine exister sur l'Internet pendant une soirée de temps. Et le résultat était fantastique, c'est tout ce que je peux te dire.
Ouais, ben c'était la belle époque. C'était l'époque aussi, si tu laissais un FTP ouvert, le lendemain matin, tu te ramassais avec un WRS que tu rediffusais à la planète entière. Là. C'est comme c'était le Far West à ces époques-là, là. Mais même Vista c'était c'était l'introduction du EAC, là, mais ça, bref, c'est une première étape, mais qui n'était pas concluante. Là.
Exact. Mais c'est juste pour donner l'idée à quel point que comme on pourrait juste avoir un pare-feu, puis c'est pas le pare-feu qui va changer grand-chose. Déjà en partant, il faut savoir le configurer, parce que le trois quarts du monde qui savent ce que ça veut dire un pare-feu, savent même pas le configurer, fait que ça part pas bien. Puis encore pire, ben c'est que juste un pare-feu, ben malheureusement c'est comme une switch dans maison là, pour allumer la lumière ou la fermer, là, c'est un on-off là. Ça fait rien de magique au bout de la ligne. Si tu fermes les connexions, cool, t'es en sécurité, mais t'as plus accès à rien. Ça te permet pas d'être, dans certains cas, proactif ou d'être exposé, exemple, à l'Internet puis d'avoir des accès à naviguer librement, si on peut dire, parce que rendu là, tu tombes dans un mode ou dans un monde que tu peux... La paranoïa n'a pas de limite, dans un sens. Là. Tu peux décider de commencer à fermer toutes les portes puis de laisser juste ouvrir les portes. Tu laisses les portes ouvertes que tu as besoin d'utiliser, mais... Et rendu là, ça finit plus, là. Tu passes ton temps à faire des modifications finalement dans ton setup de pare-feu. Puis ça
t'en rend. Entre autres, puis oui, puis pour de toute façon, pour moi, un firewall, c'est une mesure des années 90, début 2000. Parce que ce qui est arrivé, puis là, je pense que les gens n'ont pas trop compris parce que les gens sécurisés ont toujours le département du nom. Fait qu'on a refusé beaucoup. Fait qu'on a utilisé à une époque le firewall comme étant un moyen de contrôle parce qu'à une époque, tous les services qu'on consommait avaient des numéros de port distincts, il y avait plein d'affaires, puis plein de choses comme ça, ce qui nous permet de contrôler avec le firewall. Cependant, comme on a comme été un peu trop abusif dans notre contrôle puis dans le fait de refuser tout, ben les gens, ce qu'en fait, c'est qu'ils ont tout mis en web. Fait que maintenant, tout passe par le 480-443. Fait que le firewall, il sert plus à rien autre que relayer le 443. Fait que, tu sais, là, on s'en sert même, c'est même plus un outil de sécurité efficace comme ça l'était à une certaine époque. On a exagéré, mais on est puni d'avoir exagéré parce que maintenant, on est puni d'avoir d'autres choses parce que tout passe par le 443 maintenant. Puis j'espère que tout passe par le 443 puis pas le 80, hein, by the way. Là.
Effectivement, puis ça, c'est un des autres rôles de, justement de la couche applicative qu'on va tomber dedans bientôt. C'est le fait que justement, ben comme tu le dis si bien, le port 80, hein, on s'entend, c'est ça aussi, c'est même quelque chose qu'on est, je sais pas si on peut dire RIP tout de suite, là, que rest in peace, personne devrait encore y toucher. Il y a de moins en moins de protocoles qui l'utilisent. C'est de plus en plus inexistant. Ça n'a pas le choix d'être là pour certaines raisons techniques. C'est correct. Mais dans le meilleur des mondes, aussitôt que tu installes un minimum de sécurité, il devrait avoir un processus qui dit « Hey, si tu essaies de me visiter par là, ben passe par l'autre porte à côté. » Puis c'est exactement justement ce qu'un pare-feu web applicatif est capable de faire. Il est capable de détecter que « Ah, tu essaies de passer par la mauvaise porte. Please, passe par l'autre finalement, puis que ça se fasse automatiquement, parce que sinon, on n'en finit plus. Là, on s'entend, là, c'est comme... C'est une infinite loop de possibilités à gérer. Puis que déjà, à travers de cette infinite loop-là, d'avoir deux portes ouvertes, ben c'est encore plus simple d'en envoyer qu'une, parce que déjà, par la une porte, ben c'est là qu'on tombe dans le fait qu'une fois que le trafic passe, on fait quoi avec ce trafic-là, comme je disais tantôt? On peut regarder les entêtes, on peut regarder le nombre de requêtes qui passent par minute, on peut regarder un paquet de... Il y a un paquet de détails qui vient avec une requête, dont ce qu'on appelle le user agent, qui dit exactement, qui donne un peu les specs de la machine qui essaie d'accéder à l'application. Fait que déjà de savoir est-ce que c'est une machine legit, est-ce que c'est un robot ou un bot qui essaie tout simplement de collecter de l'information. Est-ce que c'est une gang sur Slack qui essaie de plugger un plugin pour lire qu'est-ce qui se passe sur votre site web ou votre application? Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent finalement qui passe comme trafic, ou c'est totalement de la junk, ou c'est des scripts, des outils de sécurité qui essaient de venir chercher de l'information? Ben c'est là que ça permet justement d'ouvrir ou fermer la porte, pas juste comme de façon totalitaire, mais dynamiquement en fonction du trafic qui passe, puis de pouvoir aussi mettre en place ce qu'on appelle du geofencing, ce qui permet, dans bien des cas, on dirait que le monde n'a aucune idée que ça existe, mais c'est comme quand on ferme un port, on le ferme au complet, mais là on peut dire ben écoute, la porte est fermée, mais seulement pour l'Asie ou seulement pour la Russie, comme exemple, parce qu'en ce moment on s'entend tout ce qui sort de la Russie en ce moment, c'est des F-bombs on the keyboard pour,
pour ouais, c'est clairement un style, on est dans un univers où ça c'est ça là, il y a plus le fait depuis février que quand depuis que même si la Russie a pas déclaré la guerre, c'est comme si là, fait que à ce moment-là, c'est sûr qu'ils s'en prennent à nos infrastructures. Il y en a eu des infrastructures qui ont été attaquées réellement. Là. C'est pas les gens s'en vendent pas, mais ça arrive pour de vrai. Fait qu'à l'heure actuelle, fait que c'est sûr que c'est une stratégie qui est rapide et efficace de juste de couper ce bout du monde qui est un peu hostile ces temps-ci. Là.
Exact. Puis je peux même confirmer par le ça que je pense que j'ai pas aucun de mes clients qui a pas été au moins attaqué une fois par la Russie. Puis même encore pire, qui a pas été, si on peut dire, même nos sites qu'on appelle des honeypots, des beaux pots de miel qu'on met à l'échant pour essayer de capturer des nouvelles vulnérabilités, des zero day et tout. Même chose. On va se le dire, là. La Russie manque pas un spot. Je pense qu'il y a une adresse qu'ils peuvent attaquer sur l'Internet. Ils font ou ils essayent de rentrer un peu partout. Puis c'est vraiment juste le mot annoying qui me vient en tête. Il y a rien de le fun à gérer ça ou de voir ça aller. Là, c'est juste ça. Puis on va se dire, si on pense juste à fermer la porte, ben c'est plate qu'on n'a plus de trafic, on n'a plus de business, on n'a plus de whatever ce que vous vouliez faire sur l'Internet. Tout passe par 443. Fait que si tu fermes la porte, tu fermes à tout le monde. Et c'est là que ça devient inefficace de, on va se dire, de faire de la business ou même de travailler dans certains cas. Juste d'avoir un projet ou peu importe ce qu'on veut faire, tout passe par le 443 ou en fait par le, on va se dire, par la couche web ou le protocole. Puis c'est justement là que, juste de pouvoir en fait mettre du geofencing qu'on appelle, de pouvoir gérer les accès de façon dynamique en fonction, ça vient de tel pays, ça vient de tel continent ou ça vient de telle ville exactement, parce qu'on peut vraiment aller jusque carrément dire, écoute, le code postal, faut qu'il matche, on peut aller très loin en termes de geofencing, c'est hallucinant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais écoute, on n'a pas besoin d'être rendu là encore. Je pense pas qu'on soit rendu à dire, écoute, ce quartier, un peu dans les, comme dans les jeux vidéo, là, la GTA, là, que tu vois des quartiers qui sont contrôlés par des gangs. Là. On n'est pas rendu là encore, je peux vous le dire. Mais pour la joke, c'est un petit peu ça qui se passe au niveau mondial. T'sais, c'est vraiment de pouvoir dire, ben écoute, moi, l'Asie, je deal pas avec eux. La Russie, je veux rien savoir. Puis de pouvoir comme conditionner l'environnement pour qu'au moins, ben écoute, si on fait pas affaire, exemple, avec le reste du monde, on fait juste affaire avec l'Amérique du Nord, pourquoi je laisserais un risque énorme pouvoir m'arriver pour absolument rien à gagner dans tout ça? T'sais? Ben c'est un petit peu la question qui est à se poser aussitôt qu'on s'expose en ligne, finalement. Là. C'est comme jusqu'où je veux laisser la porte ouverte. Puis c'est un petit peu là que justement un pare-feu applicatif peut permettre ce processus, si on peut dire, d'intervention. Puis encore plus loin, puis je pense que c'est une discussion qui va peut-être t'allumer un peu, Nicolas. On va parler de IDS et de IPS. Est-ce que pour bien du monde, c'est la même chose ou comme
mais en soi, c'est des vieilles technologies qui étaient faites pour le monde réseau. Mais on n'est plus, on n'est plus dans cet univers-là de monde réseau. Quand même, tu sais, les firewalls, on a abusé de ça des années. Fait qu'on a tout balancé dans le web. Il se fait pratiquement plus. Ça existe encore, là, mais tu sais, j'arrive d'une époque où on avait les ping of death, puis les smurf attack, puis ce genre de choses-là, qui est vraiment une autre époque dans laquelle, effectivement, le firewall IDS était très utile parce qu'il venait nous bloquer de ce trafic hostile-là. Mais maintenant, moi, si je consomme que des services web, que des sites web ou que je fais des calls REST puis en API, mais c'est tout du API web. Mm-hmm. Fait que vraiment, tout est comme réduit dans l'univers. Le IDS, IPS, maintenant, il y en a en format web, mais le classique réseau avec le Snort, puis on oublie, là, on n'est plus dans cet univers-là du tout. Là.
Puis le problème avec tout ça, c'est que la plupart de ces technologies-là sont même plus conçues, sont même plus... puis j'ai des bons exemples, justement, que... On se discutait justement avant qu'on parte l'émission de justement tout ce qui provient, exemple, à la FortiGate qui vient de Fortinet. Pas pour glisser une petite oups cette semaine en plus. Mais justement, dans leur cas, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai eu à me penser sur le sujet. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert une de leurs outils pour justement aider certains de nos clients. Parce que justement, le logiciel est super intéressant. Il vient avec tout plein d'outils pour des professionnels de la sécurité qui savent exactement comment opérer tout ça, qui ont une idée quoi faire. Mais quand on regarde juste, exemple, les thresholds réseau, là, comme qui sait comment gérer ça aujourd'hui? Parce qu'on va se dire, la réalité, il y a 10 ou 20 ans, là, la pipe d'Internet n'était pas jamais ce qu'elle est aujourd'hui, là. L'Internet qui se rend à nos maisons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. Là, il y a 20 ans, t'essayais d'aller sur Google, là, puis le téléphone coupait. Là, genre, on n'était pas à la même place qu'aujourd'hui.
on n'est pas dans la même zone. Mon Internet à la maison, à l'heure actuelle, est plus rapide qu'un Internet commercial qu'il y avait il y a 10 ans. Là. T'sais, fait que, t'sais, on n'est plus dans le même monde, là, mais pas en tout. Là.
Exact, on est rendu dans un monde de consommation. Mais c'est juste pour démontrer que c'est cool d'avoir des logiciels à la fine pointe de la technologie qui sont capables de bloquer des attaques ou de bloquer des choses assez hallucinantes. Mais il y a aussi le côté utilitaire d'être capable de s'en servir puis d'être capable de comprendre à quoi ça sert. Puis quand on tombe dans le monde du IDS-IPS réseau, c'est drôle à dire, mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui savait comment que ça fonctionne. Puis que, comme de façon proficient, en voulant dire que la personne a sait de quoi qu'elle parle, puis qu'elle a vraiment dealé avec ça ou qu'elle a vraiment travaillé dans ce domaine-là. Parce que même aujourd'hui, ce qui est plate, c'est qu'il y avait des guidelines en place il y a peut-être 10 ou 20 ans pour la grosseur de la pipe. Mais à la vitesse que l'information transige aujourd'hui, là, on s'entend-tu que des milliers de paquets par minute, c'est pas rare, là? Fais juste partir un stream en 4K. Tu viens d'exploser la pipe ou tu viens d'exploser l'IPS, peux te le dire, s'il était c'était pour bloquer
ouais,
ça.
Ouais, on n'est plus dans la même zone. Puis pour en avoir déployé, parce qu'il y a encore une utilité, mais ça dépasse ce qu'on discute là. Mais dans un réseau interne, tu veux ce genre d'information-là. Mm-hmm. Moi, je suis plus un fan de Suricata comme pour ça, parce que c'est un moteur qui est ultra efficace, ultra performant, qui est capable de gérer du 10 gigabits sans broncher. Sans consommer en fou des ressources de CPU.
Mm-hmm.
Puis là, tu vas voir tu vas analyser tes anomalies de cette façon-là, mais des anomalies réseau. Parce qu'à l'interne, on a encore beaucoup de protocoles qui vivent mm-hmm. de ces affaires-là. Fait que là, tu vas être capable de mesurer puis de contrôler ton infrastructure. Mais quand on est dans le monde de ce qui est consommé web ou ce qu'ont les gens qui viennent consommer nos ressources, qui sont web, j'espère bien. On n'est plus dans cet univers-là, on n'a plus besoin de setup pour tout ce qui est extérieur, tout ce qui est Internet, on n'en sert pas parce que de toute façon, ton tuyau, il est étroit. Fait que tu vas utiliser des technologies qui sont plus adaptées à l'analyse du web que l'analyse du trafic old school réseau comme on a dans nos réseaux internes. Puis pour avoir vu puis l'avoir déployé à quelques endroits, les ingénieurs réseau devraient se concentrer très fortement sur la qualité et filtrer plus mieux leur contenu réseau parce que c'est littéralement des poubelles. Fait que là, c'est comme des tuyaux plein de. Fait que c'est pas des tuyaux d'eau propre, là, c'est des tuyaux d'eau sale, les réseaux internes. Fait que je pense qu'il y aurait intérêt à mieux contrôler les infrastructures internes, mais c'est pas la conversation d'aujourd'hui. On va retourner au web.
C'était plus pour en définir sur le fait que comme c'est facile d'installer un IDS ou un IPS. Il y a beaucoup de vendeurs qui en ont, puis je vais donner un exemple concret. Puis qui vont venir avec des paramètres, puis que justement, il y a moyen de bousiller son réseau complet. Quand est-ce qu'aujourd'hui, puis aussi, je pense que tu l'as dit en termes d'anomalies, d'avoir des anomalies qui sortent de partout parce que tu gères de l'eau sale, mais dans la couche du web, ce qui arrive, ben on a le même genre de pipeline qui existe, mais il est adapté différemment. Parce que là, tu veux gérer le type de requête qui passe. Est-ce que le gars fait juste se faire rediriger? Est-ce que le gars fait juste se faire bloquer? Tu veux quantifier ton trafic? Tu veux pouvoir détecter des anomalies à différents niveaux pour savoir, bon, mais c'est quoi que la personne essaie de faire finalement? C'est quoi son but en passant sur ma pipe, là? C'est quoi son end goal? Puis c'est ça qui amène que il y a une partie dans quand on parle de IPS, IDS, ben la détection, c'est une grosse partie de tout ça. Puis c'est ce qui permet justement au fait d'avoir un pare-feu qui peut être au niveau applicatif, qui est capable justement de mettre des filtres en place puis de commander des choses. Ben qu'en temps réel, si on installe la même genre de technologie qu'on avait pour gérer nos réseaux plus old school ou bref, gérer nos réseaux internes finalement, ben que si on met ça en place, ah, cool. Là, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, mais juste sur une pipe, dans une direction ou même dans les deux, de savoir, bon, ben écoute, mon trafic entrant, venant de, exemple, tel range d'adresse IP ou venant de tel pays, en ce moment, je reçois, je me fais garnoter. C'est rien de positif ce qui s'en vient. Ou pourquoi, là, tout d'un coup, j'ai une adresse IP qui provient de la Chine qui fait juste m'envoyer des 0D puis des anomalies une en arrière de l'autre? Ben, ça permet de mettre en place des guidelines automatisés qui vont dire, ben écoute, là, à un moment donné, si t'en reçois trop de ça, ben fais juste isoler le cas. Là, t'sais, on n'a pas besoin de dealer avec ça. On sait que c'est de la garnotte qu'on reçoit. Là. C'est vraiment lui, il dompe ses déchets dans ta pipe. C'est plus juste de l'eau sale. Fait que c'est un petit peu ça. C'est que ça permet de filtrer tout ça de façon automatisée à travers même du pare-feu. Fait qu'il n'y a pas de configuration vraiment à mettre en place. C'est possible de le faire. Mais rendu là, comme qu'on disait tantôt, c'est tellement rare déjà de rencontrer quelqu'un qui connaît le monde du IPS puis du IDS correctement puis qui aurait une idée quoi faire avec ça, quel genre de settings mettre en place, comment paramétrer le tout, que c'est rendu que c'est plus simple de juste comme laisser ça indépendant puis que ça se gère tout seul parce que au final, les risques qu'on tombe sur quelqu'un qui connaît vraiment ça, je pense que je vais lui donner sa licence s'il m'approche puis... Puis qui me montre qu'il connaît ça. C'est ce que je veux dire, là. On est rendu là. Mais pour la joke, c'est que ça permet justement d'aller un petit peu plus loin, puis d'en arriver avec des concepts, comme que tu disais si bien au début, des concepts de virtual patching puis de virtual hardening. Que ça, c'est deux concepts là, qu'on dirait là, que le monde n'a aucune idée. Là, quand tu parles de firewall, là, ça, là, c'est écarté, ça va pas ensemble. On dirait que c'est comme un autre système ou c'est un autre balayeuse qu'il faut que t'achètes, si tu vois ce que je veux dire, ou une extension de ta balayeuse pour siphonner.
Et pourtant, c'est tout l'avantage d'avoir un WAF, c'est de faire du virtual patching, justement, pour te laisser le temps d'absorber puis de gérer ton infrastructure en dessous. Puis c'est by the way, éviter d'avoir de l'infrastructure, on n'est plus dans le univers. Laissez la gestion de l'infrastructure ailleurs. Faites plus ça, t'sais, laissez les autres manger le coup à votre place. Mais pour ceux qui insistent encore, effectivement, le virtual patching, c'est un must, mais pourtant, c'est moi, comme professionnel dans le milieu, ça fait des années que je prône ce genre d'approche-là, justement, parce que ça réduit mes efforts, ça me permet de protéger en avance de phase. Puis une compagnie comme la tienne, ben, te permet justement de protéger 10, 100, 1000 clients d'un coup avec la même chose et leur laisser le temps de mettre en place la fameuse patch. Puis ben, de toute façon, en off, tu me parlais de Exchange, qui au moment où on enregistre, connaît certaines ratées très importantes sur le volet web d'accès qui justement a ça. Puis d'avoir juste pour moi, justement pour vous autres, d'avoir développé cette patch-là virtuelle, qui n'est pas la patch sur le vrai serveur lui-même. Fait que, by the way, puis ça, parce que je l'ai déjà vu ailleurs, quand vous utilisez un WAF, faites juste que votre application web, ou en tout cas dans ce cas-ci Exchange, n'est autorisé qu'à parler avec le WAF. Parce que si vous ne faites pas ça, on va venir vous frapper sur le côté quand même, ça va faire mal quand même, parce que j'ai déjà vu. Mais bref, je vais te laisser continuer.
Puis tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça? Puis ce que je trouve encore plus drôle, c'est que le monde ne devrait pas pouvoir se faire frapper de côté si leur configuration en place sur leur service web serait bien configurée in the first place. Ben malheureusement, si on suit les standards d'aujourd'hui, puis ça, c'est une autre raison d'avoir un WAF, puis de faire exactement ce que tu as dit, de laisser juste passer le trafic qui vient du WAF. C'est le côté merveilleux de tout ça. C'est que t'as plus à te soucier de ce qui va venir de gauche à droite, à côté, que ça va juste venir de... Tu te connectes ta pipe directement sur le WAF, fait que tout ce qui vient, c'est de l'eau propre, pour reprendre le terme. Puis, ce qui vient d'à côté, ben techniquement parlant, puis ça, c'est un autre sujet que je veux pas aller trop profond dedans, parce que je crois qu'on pourrait se perdre. C'est le fait que, comme juste côté configuration puis conformité, là, si le, je dirais, puis j'ai des statistiques que je pourrais sortir en plus qui font mal à la tête à regarder, là, que si le web serait mieux configuré en général, on n'aurait jamais vraiment soucié de le trafic qui vient de tel endroit ou pas, parce qu'il serait centralisé à un endroit. Parce que techniquement parlant, quand on parle à un autre domaine, ben techniquement, on devrait pas être capable de parler à son adresse IP sur le même protocole, parce que le protocole devrait juste couper la connexion à la seconde qu'il reçoit une requête. Mais ce qui arrive, c'est que dans la réalité, le trois quarts du monde n'ont même pas cette configuration-là en place pour dire, ben écoute, si tu parles pas à bonne personne, là, ferme la porte, là, ben comme ce bot-là, là, il est ignoré par, je dirais, au moins 90% de l'industrie. Ce qui fait vraiment peur. Ça, c'est un autre sujet, peut-être pour un autre moment. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, mais j'ai pas ça, parce que ça, j'en ai beaucoup à dire aussi. Justement, cet usage, ce mauvais usage des outils qui nous sont disposés. C'est-à-dire, on utilise un WAF, mais en plus, on le laisse de côté. J'ai eu la même chose au niveau des anti-spam, où ils se mettent en place un front anti-spam dans l'info nuagique, mais leur SMTP ne filtre pas l'origine des communications. Fait que, sur le côté, ils ont reçu, puis ben, ils ont laissé l'open relais sur le dit chose, parce qu'ils disent oh, « non, mais on est filtré en amont. » Ils disent oh, « non, mais t'es scanné par tout le monde. » Fait que même si ton MX n'est pas diffusé, il est diffusé sur ton fournisseur en haut, ils vont te trouver pareil. Ils vont te trouver parce qu'ils scannent, ou ils vont te trouver parce que t'es en showdown. Tu vas être repéré quelque part. Une place ou un autre, ton port 25 qui va être déclaré quelque part, puis tu vas te faire attaquer. Là. Puis on parle de SMTP, là. De vieilles affaires, de vieilles guenilles d'un autre monde. Puis tu sais, oh non, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave. Fait qu'en web, c'est la même chose. Si l'application web accepte des communications de n'importe où, même si c'est devant le WAF, il va être repéré. Puis Shodan va l'avoir répertorié de toute façon. Puis Shodan, c'est pour ceux qui font du kung fu en Shodan, là, c'est assez malade ce qu'on est capable d'avoir comme information. Puis d'avoir tout ce qu'il y en est. Puis là, tu sais, j'écoute un podcast qui est spécialisé là-dedans. Puis il est capable de sortir tous les engins, tous les IoT qui existent, qui sont directement sur le web, toutes les caméras web. Tout ça, puis il est capable de sortir parce que Shodan a ces capacités-là. C'est malade. Mais tu sais, c'est malade, mais les malveillants le savent aussi, là. Fait que si votre site web ne filtre pas, genre justement avec votre fournisseur de WAF, il accepte n'importe quoi, mais vous allez faire défoncer comme...
Malheureusement, c'est ça. T'as tout dit. Puis bref, c'est juste une capsule que je voulais dropper par là, parce que je pense que c'est un autre des gros problèmes aussi, comme tu le dis si bien. Dans le sens, c'est que le monde, ben souvent, on dirait la pensée magique que c'est comme, ah, OK, cool, on dirait que c'est une shopping list, là. J'avais besoin de voir. Puis là, mes problèmes sont tous réglés. Non, ils sont pas réglés. T'as réduit le risque qu'il arrive quelque chose, mais t'es pas plus en sécurité au bout de la ligne, parce que pour être en sécurité aujourd'hui, l'effort qu'il faut mettre en place, juste te donner une idée, même notre propre infrastructure de compagnie, c'est un travail non-stop, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois proactif, mettre des heures quasiment à chaque semaine, parce qu'il y a tout le temps de la maintenance à faire, il y a tout le temps des nouveaux standards, il y a tout le temps des nouvelles attaques, il y a tout le temps. Juste faire ça, ça prend quasiment, c'est une équipe à plein temps, juste pour maintenir une infrastructure. On va se dire, là, fair and square, là. Tu sais, pas besoin de penser à rien. Puis on parle même pas de se défendre là-dedans. Là. On parle juste de mettre les machines à jour, faire les patchs de sécurité, puis s'assurer que l'infrastructure, les portes de firewall sont organisées. On est bien branché sur un WAF qui t'envoie de l'eau clean et non, il y a des trous avec de l'eau sale qui se verse dedans. Tu vois ce que je veux en venir là, tu sais, c'est comme juste ça, ça prend une équipe à plein temps. Puis ce qui est dommage, c'est que bien souvent on rencontre des clients, puis oups, ça, cette équipe-là, c'est une personne, puis il est déjà débordé. Parle-y même pas de l'eau sale qui va rentrer par les côtés, là, il n'y a même pas le temps. Tu viens de le débordre, ça vient d'overflow, comme on dit. Juste si tu ouvres la porte à ça. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que comme l'industrie dans tous ces cas a besoin d'aide à ce niveau-là.
Ben, on a besoin de beaucoup d'aide parce qu'il n'y a pas assez de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement mal formés ou mal accompagnés. Donc, on se retrouve dans des situations qui sont très difficiles. Puis tu dis, les gens des one-man show, oui, il y en a beaucoup. Tu sais, les petits ministères ou les PME, ils n'ont pas la capacité d'avoir un staff de 50 personnes en TI, encore moins en SI. Fait qu'eux autres sont mal pris puis essaient de faire le mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Puis c'est justement d'où tout l'importance de sous-traiter. Le plus accessible, c'est que puis moi, comme j'étais un one-man show dans mon temps, j'étais un freelance, fait que j'ai mon entreprise, c'est moi. J'ai mes infrastructures, j'ai mes affaires, mais tu sais, à une époque, j'étais un illuminé, fait que tu sais, j'avais mes propres infrastructures, j'avais mon propre serveur email, mes serveurs web, j'ai toutes mes affaires chez nous, dans mon infrastructure. Et le temps que j'avais mettre là-dessus, c'est contre-productif. À un moment donné, je me suis tanné, j'ai fait comme fuck, si j'envoie ça ailleurs, là, j'ai tout pelleté, mais j'ai tous mes courriels ailleurs, tout ma collab est ailleurs, justement parce que j'ai pas le temps de gérer ça. Puis ça prend du temps. Là, si tu le fais pas, il s'agit qu'une vulnérabilité, puis pouf, ça tombe dessus. Là, c'est complètement débile, t'as pas ça. Puis c'est moi, hein, puis je connais ça. Là, puis je regarde les PME, puis ou les TPE, les très petites entreprises, puis genre les personnes à l'entreprise à 50 personnes et ils n'ont pas le temps de se casser la tête avec ça. Puis pour la plupart, soit ils prennent un gars de TI qui sous-traite un machin un peu une fois par mois, il vient faire un peu de patch, puis des peu d'affaires, là. Ils ne comprennent pas. Puis c'est pas leur job de comprendre aussi. Puis c'est ça le défi là-dedans. On sent cet univers-là. Fait que puis même en grande entreprise, bon, je pense que je vais me taire là parce que je voudrais pas nous avoir parlé de ce qui se passe en grande entreprise.
Mais c'est pas mieux, c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense. Même des fois, c'est pire. Mais bref, pour faire une histoire courte, on vient un peu sur le sujet. On vient juste au parce que je pense qu'on a vraiment divagué du mot virtual patching, virtual engineering. On a expliqué les conséquences de ce que ça amène. Juste au niveau virtual patching. Justement, Exchange, ça n'était toute une bonne exemple parce que justement, à l'heure du recording, Microsoft Exchange en ce moment a plusieurs zero day en même temps qui rentrent toutes par la même porte d'entrée qui est la couche web. Puis que c'est malheureux à dire parce que même Microsoft en ce moment patauge à essayer de trouver un fixe. Ils n'ont pas mis de patch en place. Ils n'ont pas mis ils ont émis une façon d'essayer de se protéger que la plupart des fournisseurs de sécurité ont mis en place. Bien avant, je pense, avant même qu'ils décident de la mettre en place, la mesure de sécurité, si on peut dire. Puis c'est exactement ce qu'on a fait dans notre cas. Parce que à la seconde que quelqu'un envoie cette belle petite requête qui est très malicieuse, on s'entend, c'est pas une requête qu'on est habitué de voir, puis elle tombe dans un fil qu'on appelle les anomalies, puis qui est encore quelque chose que dans bien des cas, je trouve ça intéressant d'acheter un logiciel de sécurité puis de faire comme « Wow, j'ai un beau dashboard complet qui m'explique mes anomalies d'un bout à l'autre. » Puis que c'est quasiment c'est du juicy detail pour quelqu'un qui est super technique, qui est super, en tout cas, qui a passé sa vie en sécurité finalement là, puis qui est habitué à regarder de l'anomalie, qui a quasiment un certain degré en data science. Parce que au bout de la ligne, c'est quoi une anomalie? C'est la science de la donnée, en fait. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable d'analyser le data, qui est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est capable de dire, ben comme moi, je mets le veto, c'est bon ou c'est mauvais. Puis comme toute cette logique-là, ben malheureusement, c'est pas quelque chose qui venait avec un pare-feu, si on remonte il y a 20 ans. Là. C'est vraiment un concept qui est très élaboré puis qui est très loin de tout ça. Puis qui se rapproche un peu plus de ce qu'on voyait dans le monde, justement, du IPS, IDS, que ben sur la couche réseau, on voyait des anomalies, on voyait des trucs passer. Puis c'est là, justement, qu'on pouvait filtrer. Bon, mais écoute, pourquoi que ça arrive, ça? Ça vient d'où? Puis c'est là qu'on était capable de mettre le doigt justement sur des failles, sur des botnets ou sur certaines, on va se le dire, sur certaines choses qui font partie du monde IT. Qu'on veut peut-être pas qu'on veut peut-être pas trop mettre la lumière dessus parce que des fois ça peut même être épeurable juste en parler. Ben c'est un petit peu la même idée avec le virtual patching, c'est que ça nous permet que en temps réel, ben nous à la seconde qu'on reçoit quelque chose qui me ressemble faire partie des risques, avoir un risque assez élevé, ben je suis capable justement de filtrer en temps réel. Puis pour relever un autre point encore plus intéressant, comme Nicole disait plus tôt, c'est le fait d'avoir, exemple, plusieurs centaines de clients ou plusieurs milliers de clients qui utilisent les mêmes applications. C'est encore mieux parce que dans notre cas, ça nous permet de mettre une approche de la science de la donnée qui est justement le plus qu'on a d'influx en même temps provenant de plusieurs clients différents, plusieurs qui utilisent tous la même application. Ben, je suis capable de catégoriser ma donnée pour lui dire, ben écoute, si ça vient sur cette application-là, ben sors-moi des anomalies par rapport à l'application en tant que telle. Donc, je suis capable de savoir exactement où est-ce que l'attaque va arriver, quand est-ce qu'elle va arriver, puis quand elle arrive, bien souvent, elle est filtrée avant même d'avoir pu toucher la cible, parce que justement, avec l'influx de données qu'on a, c'est encore plus facile d'isoler les cas isolés, puis de voir que ben finalement, le problème est systématique, puis de mettre en place justement une patch de notre côté qui va avoir comme impact que le client n'aura même pas besoin de penser à mettre sa patch en place, parce que justement, le jour que le patch va vraiment sortir, comme dans le cas qu'on a en ce moment avec Exchange, ben la patch, ça fait quoi déjà, Nicolas? Je sais pas si tu as une idée du suivi, là, mais il me semble que ça fait plus qu'une semaine ou deux que le monde se font attaquer ou qu'ils se font exploiter déjà.
Ça fait une bonne semaine que ça roule, mais j'ai pas suivi parce que j'ai pas été interpellé sur ce dossier-là. Mais
moi, je peux dire que ça fait deux semaines qu'on a une patch.
Je suis un témoin éloigné de celui-là, contrairement à Log4j où j'ai été interpellé de façon directe. Celle-là,
on peut en parler.
J'étais pas dans le feu de l'action sur celle-là, mais en plus que j'étais pas au pays non plus, j'étais à l'extérieur à ce moment-là, fait que probablement ça doit jouer sur le fait que j'ai pas été interpellé.
Puis Log4j, c'est encore un bel exemple de justement une anomalie d'une requête qui avait même pas de target à une application en particulier, qui était tout simplement, puis ça c'est quelque chose d'assez intéressant que le monde ignore bien souvent, c'est que du virtual patching, puis de la détection d'anomalies comme ça devient souvent c'est un petit peu comme la médecine en fait, puis je l'explique souvent puis je trouve ça intéressant, c'est le fait que exemple en médecine, mettons qu'on prend le COVID comme exemple, toutes les variantes du COVID qui se développent puis qui réinfectent tout le monde en fait, ben c'est un petit peu la même chose avec une faille ou un zero day en informatique, c'est que à la seconde que la première attaque est lancée publiquement, qu'elle est répertoriée, qu'elle a frappé quelqu'un en fait, le problème qui arrive par la suite, c'est que, exemple, Log4j, je dirais à peu près deux semaines avant même que ça soit public, avant même que le monde commence à s'affoler que ça existe, que c'était possible, nous, on avait déjà répertorié l'attaque parce qu'une des premières cibles, on était un petit peu la cible. On avait un beau target sur le dos. On avait plusieurs de nos clients qui étaient des cibles intéressantes pour ça. Puis, on l'avait déjà identifié. Puis, on avait trouvé ça un peu ridicule parce que, en fait, la faille même est une faille qui était, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à Log4j qui affectait Java. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le spectre de l'attaque qu'on fait de la data science dessus, on est capable de voir que c'est un spectre de RCE, qui veut dire Remote Command Execution, qui était déjà en place pour Java. C'était déjà un spectre d'attaque très connu, très en place, que n'importe quel système qui a un minimum, on va dire, j'ai juste le mot decent qui me vient en tête, qui est capable d'identifier des attaques, aurait dû bloquer. Ça aurait jamais dû se rendre là, malheureusement. Malgré que la faille était très béante et très simple, ben on aurait dû jamais se rendre là si les étapes de protection, si on aurait tout mis en place. Là. Le monde qui était protégé était vraiment protégé. Là. Ils ont pas eu à paniquer. Puis le problème qui est arrivé avec ça, c'est que si on prend l'exemple du COVID, avec ses variants malicieux, ben une fois en informatique, c'est encore pire. Parce que dans les 24 premières heures que la faille est devenue publique, on s'est ramassé avec 2000 variants. Quand on a peur d'un variant là, en médecine ou d'un virus, là on a peur de 2000 variants de façon différente de pouvoir attaquer la chose. Puis j'ai eu des histoires de d'autres fournisseurs de logiciels ou bref de solutions de sécurité avec qui je suis en contact, qui me parlaient que eux, c'est plusieurs 100 000 variants qu'ils ont vus dans la même semaine. Nous, on a arrêté comme rendu un certain step parce qu'on s'est rendu compte qu'on les bloquait toutes anyway. Quand tu identifies bien la racine du problème, tu es capable d'extrapoler qu'est-ce qui va en suivre, qu'est-ce qui est possible. Donc, dépendamment du patch mis en place, puis si on veut faire des stats, c'est assez hallucinant, c'est d'être capable de voir que, oh, cette attaque-là a fait des petits très rapidement, puis que le monde se sont rendu compte que, oups, il y a du monde qui se sont mis à mettre justement des patchs de sécurité, puis qu'il y avait toujours du monde qui trouvait des moyens de les passer, ces patchs de sécurité-là. Puis c'est là que ça devient encore plus important d'avoir encore plus de données pour pouvoir mieux protéger le client, parce que si on essaie de le faire par nous-mêmes, c'est là que ça devient dangereux. C'est vraiment une job à plein temps, là. C'est comme si la plupart des entreprises, c'est ce bout-là, je pense, qu'ils suivent un petit peu pas. Puis c'est correct qu'ils le suivent pas parce que ça fait pas partie de leur business. Mais c'est l'idée que juste prévenir une attaque comme ça, ça prend une pleine équipe à plein temps que c'est leur seul focus, c'est de voir ces attaques-là arriver puis de scanner ces anomalies-là puis avoir un beau dashboard justement qui leur dit quoi faire parce que on s'en tire pas, là. Il y a de l'automatisation à travers tout ça puis on s'entend. Là, on parlait de 90% tantôt. Là, je pense qu'on est à plus que 90% des compagnies qui n'ont même pas idée que ça existe de faire ça ou d'avoir un département qui gère ça. Puis ça ferait pas de sens non plus parce que ça coûte tellement cher. On va se dire, là, le coût de la sécurité aujourd'hui, ça explose. Là. Je pense des moi, en tout cas, de mon vécu, là, des experts qui font des salaires exorbitants, là, j'en ai vu un puis un autre. Puis c'est juste la tangente que ça prend. Je pense que ça va être encore pire dans 5 ou 10 ans. La vitesse qu'on manque.
De c'est la rareté qui amène à ça. C'est-à-dire là, ouais. C'est de plus en plus dur de trouver des experts qui savent comment vous accompagner. Puis pour les PME, c'est juste terrible parce que là, eux autres n'ont pas les moyens financiers des grandes entreprises justement pour compétitionner sur ça. Fait que tu sais, les grandes entreprises vont réussir à rapatrier les meilleurs du milieu justement parce qu'on les salaires assez attrayants. Mais là, toutes les petites PME, si on parle juste sur l'environnement du Québec, c'est terrible parce que eux autres, on se retrouve avec pas de gens et pas de moyens parce que c'est très, très dispendieux de travailler dans cet univers-là. C'est pour ça qu'un système comme c'est bon, ouais, t'as un exemple, mais il y en a d'autres, mm-hmm. justement, à frais modérés, tu embauches une série d'experts, mais tu mutualises ça, puis c'est tout le volet. Puis c'est en fait, c'est comme un peu l'info numérique fonctionne en général, c'est de justement répartir le coût sur plusieurs et que tout le monde a le même bénéfice en même temps de cet élément-là. En cybersécurité, ça va devenir fondamental, même inévitable d'en arriver là, parce qu'on sera jamais capable de ramener des experts à la... Même si on essaie de les former, on sera jamais capable d'amener des experts suffisamment pour réussir à faire ça. Donc, il faut vraiment aller vers l'autre côté.
Permets-moi que, en tout cas, je te vole ta quote, que c'est inévitable. Je pense que je mets ça dans mon talk pour le Hackfest.
Il n'y a pas de problème, mais effectivement, ça devient inévitable. On, l'usage de ce genre de service-là, on n'a plus de staff pour le faire en cyber. C'est encore plus en TI. On commence à se sentir le fait que le monde commence à avoir de la misère à embaucher des gens compétents. En cyber, c'est encore pire à quel point on est dans un état de pauvreté de quantité de gens. Fait que après ça, comment tu veux que les petites PME puissent se protéger quand il n'y a même plus d'experts sur le marché qui sont capables de les accompagner? Puis parce que les grandes entreprises les monopolisent toutes aussi, là, parce qu'ils ont plus les poches plus profondes, sont capables de toutes les prendre. Mais c'est ça, il faut des systèmes qui sont mutualisés, des systèmes qui font ça. Puis c'est l'avantage du virtual patching, c'est que toi, tu appliques ta patch dans le système que tu offres, dans le service que tu offres, et tu as 1 000, 2 000, 10 000 clients d'un coup qui se trouvent à bénéficier de ça, qui n'ont pas besoin de eux-mêmes déployer l'énergie, le temps et d'embaucher les gens pour obtenir ce service-là. Et c'est là l'avantage, puis je crois que c'est là, tant qu'à moi, l'avenir, parce que les gens, c'est même au-delà, si on essaie de former des gens en cyber, il n'y en aura pas tant que ça, là, parce que c'est un univers très particulier avec des demanding un peu spécial. Puis c'est pas n'importe qui peut aller là-dedans de façon aussi ouverte que dans certains autres ou qui sont plus prédisibles, un peu plus prévisibles tant qu'à moi. Là. Fait que c'est de prendre une approche et un thinking qui est différent de ce qu'on retrouverait normalement, là, mais mon opinion.
Ben, je vais même continuer puis approuver ton opinion sur un point. Écoute, un des plus gros géants justement du web qui est Google a exactement l'approche qu'on a en ce moment. C'est exactement comme ça qu'il pallie aux plus grosses vulnérabilité du web, puis qui protège un écosystème. On se dit Google, c'est géant, là, c'est planétaire. On se dit c'est plus juste si eux, il leur arrive quelque chose, on est tous infectés, on est tous. On a tout un compte Gmail ou on a tout rapport à Google soit à partir de notre téléphone ou autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Fait que quand on pense à des business comme ça qui ont une importance planétaire puis qui ont à déployer, on s'entend, puis ça, c'est la petite nuance que je voulais ajouter à ton opinion parce que je l'aime bien moi aussi. C'est le côté comme de comprendre que c'est compartimenté, c'est bien beau de vouloir se proclamer, exemple, expert en cybersécurité. Mais c'est rendu que la cybersécurité, c'est tellement technique parce qu'il y a tellement de sous-branches. Tu peux être un expert en Red Team, tu peux être un expert en Blue Team, tu peux être un leader de Purple Team, tu peux être un data scientist qui a un attrait pour la cybersécurité. Tu peux être le gars d'IT qui est un crack de configuration de sécurité, mais qui a aucune notion de Red Team, aucune bref, qui a aucune notion de tout le reste. Puis c'est bien rare de tomber sur quelqu'un qui va être un all-in-one ou un jack of all trades, master of none. Que ça va être très, très, très rare. En tout cas, moi, dans mon cas, j'en ai pas rencontré souvent. J'ai plus rencontré du monde qui était très, très calé dans leur branche à eux. Puis comme, essayez pas de les détrôner. Ils sont là depuis trop longtemps. Ils connaissent la machine d'un bout à l'autre, mais ils connaissent juste ça.
Ouais. Ouais, mais c'est ça ce qui a changé en cyber dans les 10 dernières années. Avant, on était notamment, on touchait à tout. Dans les 10 dernières, au moins les 10 dernières années, il y a eu une énorme spécialisation dans beaucoup de domaines qui fait que c'est virtuellement impossible d'être expert dans tous ces domaines-là parce que c'est trop vaste. C'est justement parce que donc ça prend des experts, puis ça prend plus d'experts, puis ça amplifie le problème pour les PME, entre autres. On ne peut pas se payer genre 10 experts parce qu'il va falloir qu'il y en ait un en GIA, un en réseau, un en application, un en plus. On en a plein, là. On n'aura pas de conformité comme on a parlé la dernière fois. Il y en a une panoplie de domaines qui sont rendus là, puis c'est excessivement difficile. Puis moi, l'autre exemple, c'est moi, c'est des. Je les appelle les full stack. En cyber. En prog, t'as des full stack. Ben, en cyber, t'as des full stack. Il y en a vraiment pas beaucoup des full stack parce que ça prend une compréhension très, très pointue dans tous les domaines. C'est rare.
Exact. Puis même encore pire que ça, le concept des full stack, il est rare, mais en même temps, pas tant sur un autre axe que, exemple, si je prends exemple mon équipe de développement, ben, c'est en train de se passer déjà que les équipes de développement. Je fais souvent la joke que les salaires font juste augmenter par rapport à ça parce que on n'arrête pas de squeezer une équipe qu'avant c'était 6 ou 7 personnes, que là, en ce moment, tu t'attends quasiment d'avoir un gars qui est capable de faire tout ça. Tu t'attends qu'il soit capable de faire son, ce qu'on appelle le sysadmin, déployer le serveur, configurer le serveur, configurer les applications, configurer comme tout le tralala réseau. Tu t'attends qu'il va faire son DevOps, qu'il va créer lui-même son pipeline. Tu t'attends qu'il utilise les bonnes pratiques de sécurité, puis le SDLC and so on. Tu t'attends que le gars il soit capable de faire du back-end, du front-end, un minimum, c'est un minimum de knowledge d'une base de données. Tu t'attends que le gars, là, il patauge beaucoup, là, parce que dans bien des cas, les développeurs aujourd'hui, ils se font lâcher sur des tracks de comme, écoute, c'est le budget qu'on a, puis arrange-toi pour que ça marche. C'est plate à dire, mais c'est ça la réalité. Puis en sécurité, c'est encore pire parce que le budget est encore plus petit. Bien souvent, on va se dire, on se cachera pas les choses. Le budget est encore plus petit, le personnel est encore plus dur à trouver. Puis comme qu'on dit, ben à trouver un faux stack de sécurité, ben en tout cas. I praise the Lord qui a une grosse business, qui a les moyens en une tête un ou deux dans leur business s'ils sont chanceux. Là. Mais désolé, les PME et les très petites entreprises, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. S'ils ont la chance d'en avoir un, ben souvent, ça va peut-être être leur leader. Mais même encore là, c'est quelque chose qui est comme problématique à tous les niveaux. Puis c'est exactement pourquoi, justement, que le virtual patching empêche. Moi, dans ma tête, là, juste pour revenir au concept du virtual patching puis même du WAF en général, là, je pense que c'est une question d'expertise avant tout, mais je pense même que c'est quelque chose qui est plate à dire, mais ça devrait devenir une pratique même dans les écoles. Quand on parle de programmation au cégep à l'université, là, je comprends même pas que ça fasse pas partie des core, ce qu'on appelle un core principle, là, de comme du système de l'éducation, de dire ben écoute, moi j'apprends exemple à développer du web, ben t'as un minimum qui te montre pas à configurer ton serveur comme il faut, qui te montre pas à avoir les meilleures pratiques au monde, I don't care. Mais at least, de montrer que l'importance de se brancher sur la pipe d'eau propre, c'est très important. Ça serait peut-être un début pour aider la situation des entreprises. Puis peut-être justifier peut-être un petit peu un peu plus de budget à ce niveau-là, tu sais, pour dire, écoute...
Ça devrait être la base. Puis ça, je comprends pas que c'est encore dans nos écoles. Ça fait pas partie des éléments de base qui sont enseignés. C'est-à-dire... Dans d'autres univers, la santé, sécurité, ça fait longtemps que c'est acquis, ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que c'est présent. En cyber, on est comme laissé de côté. Pourquoi les gens, les programmeurs, les sysadmins, tout ça, pourquoi ils n'ont pas une base minimale? Parce que, tu sais, je suis rendu à ce stade-ci, moi, je m'attendrais, surtout depuis le temps que ça existe, que je m'attends juste à des problèmes plus funky, ce qui est plus... des problèmes qui sont en marge, pas des problèmes généraux. Et encore maintenant, je vois chez beaucoup de mes clients des problèmes qui sont généraux, des problèmes de base qui normalement auraient dû être pris en charge par des gens de TI normal, ce qui n'est pas nécessairement une spécialité en cyber, et être capable de faire ces éléments. Puis ces éléments ne sont même pas couverts à l'heure actuelle, fait que c'est un peu désolant à quel point on n'a pas cajolé ce domaine-là, à quel on n'a pas amené les gens de façon globale, autant au niveau scolaire qu'au niveau des entreprises, qui n'ont pas formé les gens de façon générale pour qu'on ait un niveau minimal. C'est-à-dire qu'on connaisse les règles. T'sais, quand on conduit une automobile, on a quand même une bonne connaissance, on a cette espèce de niveau minimal de choses qu'on a dans les mains pour nous aider à faire quelque chose, puis là, on est juste en train de patauger. Puis les experts en cyber sont juste prêts à corriger des éléments de base en général, mm-hmm. qui auraient dû être pris en charge par les gens en TI normal, qui ça fait qu'on est encore dans. Puis tu sais, ça fait un bail que je suis là-dedans, là, puis ça fait un bail que je me serais attendu que ça allait avancer. Et il y a comme un refus. C'est ça que je trouve bizarre. Il y a comme un refus d'accepter ces idées-là et ouais. Toujours d'aller
sur autre chose. Je pense que le problème est un petit peu plus fondamental que ça. Je pense qu'il y a aussi. Je pense que c'est plate à dire, là, c'est malheureux même. On va se dire, il y a les entreprises qui ont les moyens de le faire qui ne le font pas. Puis ça, encore une fois, ça peut être attribué à plusieurs choses. Ça peut être une question de budget, ça peut être une question de main-d'œuvre pour la formation, ça peut être X, Y, Z. Mais au niveau de l'éducation, ce qui est encore pire, c'est d'avoir des profs qualifiés qui viennent vraiment, qui ont une expérience du marché, qui ne sont pas juste comme tombés profs. Puis moi, c'est plate à dire parce que je prends des étudiants en stage chez nous, puis j'en vois toutes les couleurs justement avec l'université. Je vois des choses des fois que je me gratte la tête comme « OK, genre l'université manque-tu tant de budget que ça pour avoir des profs qui sont capables de faire autre chose que te lire une page Wikipédia qui parle de sécurité. » T'arrivais avec des concepts concrets puis des choses qui sont à jour, pas juste aller lire de quoi qui date il y a peut-être déjà 5 ou 10 ans sur Wikipédia, puis comme si c'était le end all be all de la sécurité, mais d'arriver avec des nouveaux concepts frais, à jour, ben moi, mon gros problème, puis personnellement, je fais même des runs puis des présentations des fois dans des cégeps ou d'universités, justement, juste pour ramener à l'ordre l'idée qu'il y a des technologies qui avancent tellement vite là, que le système scolaire ne suit pas. Un peu comme, justement, en sécurité, la plupart du monde, ben comme pourquoi ils finissent par se... focaliser sur une branche de la sécurité, c'est parce que ça avance tellement vite que si tu veux être full stack en sécurité, là, faut que tu sois une machine à étudier à plein temps. Faut quasiment que ça soit ton side gig, là. T'as pas le choix parce que comme ça va juste trop vite. Et c'est la même chose quand on parle de full stack, exemple, en développement. Aïe, 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 les technologies, là. Comment que moi, j'ai vu en 5 ans passer d'héberger son propre serveur, de le configurer à faire sur VMware à comme aujourd'hui que c'est tout est Docker en virtual machine, puis que tout est autodestructible puis isolé automatiquement avec des couches de virtualisation. Juste la stack en tant que telle a tellement changé. Il y a tellement de monde que dans leur éducation, on n'a jamais appris à configurer un serveur tout court. Ils n'ont même pas idée que ça mange en hiver. C'est tellement de concepts qui vont tellement vite là, que comme si le monde n'est pas assez à jour, on dirait que ça suit plus, puis l'éducation est comme pognée in the middle, puis les entreprises, la même chose. Suivre cette évolution-là, puis suivre les nouveaux trends, puis où est-ce que ça s'en va, là, c'est quasiment, faut que tu dédies quelqu'un à plein temps à faire ces recherches-là, puis à amener ces nouveaux concepts-là dans l'entreprise, ou autant que dans le niveau scolaire. Puis on dirait que c'est ce coût extra-là, je peux dire, ou comme on dirait, ou je sais pas si c'est justifié par le manque de main-d'œuvre, mais c'est ce qui fait que, après ça, on forme du monde pour faire une job X, puis ils arrivent sur le marché de l'entreprise, puis ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, moi, on m'a jamais appris ça. Puis c'est quasiment juste ça qu'on voit, malheureusement. Quand il est question de programmer, ça, s'il n'y a pas de problème, ils sont opérationnels. Tout le monde est capable d'apprendre à programmer. Mais là, quand on leur dit, t'as peur, là, faut que tu fasses plus que ça. C'est là que, comme bien souvent, ça sent la soupe chaude assez rapidement, puis que même que ça peut, c'est plate à dire, parce que c'est comme, on essaie de résoudre un problème de main-d'œuvre, mais comme, la soupe chaude fait que, un petit peu comme dans le milieu hospitalier, que le monde se tanne, puisque c'est un carreau incontrôlable, ben, c'est la même chose. Tu as du monde qui se rend sur le marché du travail, puis qui sont comme, hey, mais moi, c'est pas ça que j'ai étudié, là. Tu sais, comme, c'est pas ça que je suis venu faire du tout, puis ils se rendent compte que la réalité, ben, c'est de faire partie de ce chaos-là puis de se mettre à jour, finalement. Là, c'est ça qui fait qu'on a encore plus de misère, finalement, dans tous les axes à trouver du monde, parce que, comme, c'est juste, on est dans une loupe d'évolution trop rapide. Puis c'est ça, justement, qui fait que les zero day vont encore plus vite. C'est pour ça qu'il faut les bloquer avec, justement, un système de virtual patching. Puis j'aimerais ça sauter au sujet numéro 2, qui est souvent son petit frère que tout le monde oublie. Là, on dirait qu'il ignore, il fait pas partie de la même famille. Mais le concept de virtual hardening, qui est justement quelque chose qu'on dirait que le trois quarts du monde n'a aucune idée que ça existe. Parce que c'est juste comme quelque chose qu'on dirait qui est tombé entre les cracks de quelqu'un qui a changé de job ou qui a pas voulu vraiment apprendre des trucs qui étaient passés date. Parce qu'on s'entend du virtual hardening. Moi, il y a 5 ou 10 ans, j'en entendais parler par beaucoup de monde. Aujourd'hui, tu dis ce mot-là, puis c'est comme, c'est quoi ça? Comme, ça sort de où? C'est un petit peu comme quand on parlait du IDS-IPS tantôt, que comme c'est quelque chose, un concept de réseau qui est rendu évolué, puis qui veut plus pas en doute dire la même chose. Ben, c'est la même chose au niveau que virtual hardening. C'est tout simplement le concept de t'installes une application, t'as un minimum de bon sens de faire une recherche de comme, c'est quoi les outils qui vont attaquer cette application-là. C'est quoi les chemins d'accès les plus critiques sur l'application qui devraient être protégés, qui ne sont peut-être pas par défaut? C'est quoi les mesures, en fait, qu'il faudrait que je configure, exemple, dans mon hébergement ou sur mon serveur pour dire, ben écoute, je paye au strict minimum pour empêcher que finalement, je mets mon application en ligne, puis quelques heures plus tard, ils ont finalement rentré dans mon serveur, puis on est rendu qu'on vend du Viagra à pleine page sur notre site d'association de soccer, si vous voyez ce que je veux dire. Exemple comme une comme un autre. Puis c'est un petit peu l'idée que finalement, ben encore une fois, à travers ce qu'on appelle le pare-feu web applicatif, ben il est possible justement de détecter de un quelle application qui se trouve au bout de la pipe, puis de savoir, ben écoute, s'il y a quelqu'un qui essaye d'attaquer cette application-là, pas dans le sens avec un outil, mais juste comme de façon un petit peu plus anonyme, juste d'aller fouiller puis trouver de l'information puis faire ce qu'on appelle du recon, d'essayer de fouiller pour extirper des... Ah, ben c'est quoi les extensions qui ont été installées sur le site WordPress? Qu'est-ce qu'il y a comme thème d'installé? Quel genre de code que je peux aller reverse engineer pour essayer de justement utiliser une vulnérabilité contre ce serveur-là pour prendre le contrôle? Ben tous ces petits détails-là, ils peuvent être patchés virtuellement sans même avoir besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est comme le trois quarts du monde, on dirait qu'ils ont oublié que ça existe, puis ce que je comprends pas, on dirait que c'est quelque chose de fondamental, ou peut-être qu'il s'est perdu avec le fait que justement, on est rendu avec du monde qui sont rendus tellement full stack que ben ça slip entre les sièges, là, plus qu'on rapetisse puis qu'on essaie de condenser tout dans des super humains qui font tout, ben, comme on se ramasse avec des trous comme celui-là, là, que je sais pas si t'en penses, Nicolas, mais c'est quand même quelque chose qui est dramatique dans ma tête, là.
Ben oui, c'est dramatique, mais c'est parce que on revient au problème de compétences, puis tu sais, on l'a mentionné, là, plusieurs reprises, on a des limites. Des limites de capacité. Je disais, aussi bon que je peux être, j'ai quand même des limites très importantes au niveau de ma connaissance de cyber. Quand on sort de mon domaine, je vaux plus très cher. Puis là, ensuite, de demander que je sois bon là-dedans, puis de demander aux professionnels qu'ils soient bons là-dedans tout, ça devient rien. Fait que du hardening, c'est à des gens, puis tu sais, j'ai vu des affaires, là, c'est l'asile, là. Tout et n'importe quoi, mais des gens qui, malheureusement, avaient l'impression qu'ils étaient bons. C'est aussi un problème, juste d'être capable de se d'être capable de se réactualiser, d'être capable d'admettre qu'on n'est pas bon dans certains domaines. Il y a des gens qui sont pas capables de ça, fait qu'ils vont comme penser qu'ils sont les champions dans tout. Mais quand t'es champion, tu peux pas être champion dans tout, c'est impossible. Fait que, puis là, c'est là amène les problèmes pour les entreprises, puis amène les choses, parce que si on se fie sur ces gens-là, on va tomber, parce qu'ils sont, on peut pas être bon dans tout.
Non, exact. Puis ça me rappelle quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. Je m'avais plus si c'était dans l'émission ou avant l'émission. Mais ça revient aussi simple que d'être capable de tester ce qu'on a mis en ligne. Ou que comme de mettre une protection en place, puis d'au moins d'être capable au strict minimum de dire ben est-ce que je suis capable de faire une petite requête curl pour genre valider que ma protection est en place puis elle fonctionne. Tu sais, mettre un minimum l'emphase un petit peu comme on le fait en développement, d'avoir un cycle de développement sécuritaire, ben la même chose, de déployer quelque chose de façon sécuritaire, de mettre en place des patchs de façon sécuritaire, d'automatiquement tester, est-ce que comme, ben écoute, j'ai mis un patch bien cool en place, mais finalement, fais-y changer de get à un head request ou whatever, fais-y swapper la méthode HTTP puis tu bypasses le patch. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ben comme, il servait à quoi ton patch finalement? Là? T'as fait quoi? T'as laissé la porte ouverte pareil? Puis c'est un petit peu ça, là. C'est comme, j'ai déployé un patch de l'application, mais oups, le serveur est rendu hors ligne, j'ai même pas vérifié. Puis c'est un peu ce syndrome-là que j'ai l'impression qu'on voit aussi qui est à travers de tout ça, qui n'est pas la cause non plus. Fait que c'est pourquoi que de plus en plus, on essaie de packager ça à travers d'une couche logicielle qui peut tout simplement pallier à tout ça, parce que comme de plus en plus, ben écoute, avec la manque de main-d'œuvre, je pense que c'est apprécié de pouvoir arriver avec une solution, de faire comme ben écoute, installe ça, plug ta pipe comme il faut dessus, là, puis on vient de résoudre une bonne partie des problèmes. Sans même avoir à penser à plus loin, là, si vous voyez ce que je veux dire, là, c'est comme le problème, il commence là. C'est avec les ressources qu'on a aujourd'hui, il faut être capable de simplifier, il faut être capable de se rendre compte puis d'avouer qu'il nous manque des connaissances. Puis c'est le plus beau trait à avoir dans l'industrie pour être comme tant qu'à moi, pour être un bon expert en cybersécurité, c'est d'apprendre à savoir tap out quand que c'est hors de nos compétences, parce que comme il y en a trop qui essayent de justement pousser à des endroits qu'ils devraient peut-être pas. Puis ça donne des belles choses qui sont rocambolesques, je peux vous le dire. Puis c'est ce qui fait aussi que bien souvent les entreprises se ramassent avec des outils, pas qu'ils sont mauvaises, des outils qu'ils achètent, mais juste que comme ils se rendent pas compte qu'ils viennent d'acheter un outil pour la NASA, que ça prend l'équipe de la NASA pour l'opérer, ben comme c'est un petit peu là que ça devient dangereux. Parce que là, tu te rends compte que ben là, j'ai des problèmes de connexion, j'ai du trafic légitime qui se fait bloquer pour des raisons X, Y, Z. Je me ramasse avec une panoplie de courriels pour me dire qu'il y a des alertes. On est en train de se faire. On est en mode DEFCON safe.
Ouais, c'est compliqué. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Puis le fait, il y a plusieurs outils que ça prend des experts, mais vraiment très spécialisés dans ces ceux-ci. Puis même à une certaine époque, tu sais, les différents fabricants avaient développé des certifications justement à quel point leurs outils étaient compliqués. Il fallait être certifié pour l'opérer. Mais, tu sais, ça, c'est, pour moi, c'est un peu absurde, ce genre de choses-là. Mais bon, bref, c'est un milieu, c'est un moyen de faire de l'argent comme un autre. Et l'autre élément associé à ça, c'est que ça donne un faux sentiment de sécurité. Qu'on achète, justement, qu'on achète le gros bidule, on a l'impression qu'on n'aura plus de problème. La réalité, c'est non, parce que la sécurité, il faut l'opérer de façon constante. Il n'y a pas rien de magique, il n'y a pas de bois, puis tout.
C'est totalement ça, puis c'est exactement pourquoi que nous, de notre côté, ben comme de plus en plus, que ce soit un pare-feu web, puis même les autres pare-feux que je vais dropper une petite F-bomb dans l'émission, autant les autres pare-feux qu'on est en train de développer, justement, qui sont à d'autres niveaux pour d'autres protocoles qui sont autant oubliés, si on peut dire, là, qui ont d'autres problèmes similaires, c'est la même chose. Ça se rattache tout au fait que quand on regarde des applications qui sont trop dures à utiliser ou qui t'es rendu que tu as besoin d'une formation, c'est bien souvent parce que ils te le disent pas, mais c'est pas vraiment une formation que tu as besoin. Tu as juste besoin d'avoir un data scientist qui fait partie de l'équipe de sécurité. Tu as besoin d'avoir un gars de red team puis un gars de blue team pour opérer ton équipe. Fait qu'en partant, ça te prend trois personnes, là, juste pour être sûr de comprendre toutes les sections de l'application, de tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut te sortir finalement comme anomalie, comme alerte, puis de les dispatcher aux bonnes personnes dans l'équipe que eux vont être à plein temps pour faire ça. Puis c'est ce petit bout-là, moi, que je trouve un petit peu... je m'arracherais les cheveux de sa tête juste à y penser, là. c'est juste chaotique de penser qu'il est comme faut que tu payes pour l'outil à un prix bien souvent qui dépasse l'entendement parce que ça fait aucun sens. C'est comme c'est quoi, les profits de l'entreprise vont tous dans la sécurité. Là. C'est comme, à un moment donné, il y a comme une limite. Là. Moi, je vois des chefs des fois qui. Quand t'es rendu que tu payes au-dessus de 100 000 pour ta sécurité, là, puis que c'est juste pour l'outil, là, tu parles même pas des gens qui l'opèrent, là. Ils pensent qu'il y a un petit problème quelque part. Là, à moins que tu sois une méga entreprise, là, ça peut faire du sens. Là. Mais quand tu es une petite PME ou une très petite entreprise qui paye plusieurs milliers de dollars, déjà là, je pense que comme je me demande que sert à quoi l'entreprise à part faire vivre les entreprises de sécurité, c'est l'autre question qui se pose. Puis qui ramène au problème que, ben, au final, si on serait capable de pallier au fait d'avoir besoin déjà d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'outil, moi, je sais pas, mais ça me fait sentir un peu comme l'achat d'un nouveau cellulaire, puis de se rendre compte que comme, hey, ça a tellement changé d'une génération à une autre, puis comme depuis, d'avoir le feeling un petit peu comme, moi, je vais prendre un exemple de mes parents, que tu leur montres un nouveau cellulaire, là, puis comme, wow, attends, là, c'est considération là, que je te donne un nouveau cellulaire entre les mains, là, parce que je sais que c'est moi qui vont appeler. Va falloir que je passe une fin de semaine à leur expliquer comment ça marche. Puis si on est chanceux, ben c'est la même chose avec les gros outils de sécurité. C'est que c'est pas pour rien qu'on arrive à avoir besoin de formation. Ça n'a pas été conçu pour monsieur et madame tout le monde. Ça a été conçu pour des experts de métier. Que justement, moi, des fois, c'est assez incroyable. On me montre des outils, puis la bave elle coule, là, je suis comme wow! Moi, là, quand je travaillais en sécurité, si on m'aurait donné cet outillage-là pour travailler, là, j'aurais été au paradis. Mais dans la réalité, il faut travailler pour une entreprise qui a les moyens de se permettre ça, de un. Puis après ça, ben, d'avoir l'équipe qui va derrière, puis c'est souvent ça qui est oublié. Puis c'est là pourquoi, justement, qu'on met autant d'emphase sur justement. L'idée de pouvoir patcher virtuellement, de pouvoir protéger plusieurs clients en temps réel, puis de pouvoir automatiser tout ça derrière une petite équipe de notre côté qui est capable de, juste en triant application par application, couche par couche, d'être capable de gérer beaucoup plus d'anomalies, beaucoup plus d'alertes que une équipe. Parce que c'est drôle à dire, on pourrait avoir le logiciel le plus perfectionné du marché, l'équipe pour la gérer. Le gros problème qui différencie le côté AI qui peut gérer une infinité de clients en temps réel et d'applications, puis le côté unidimensionnel d'avoir une équipe super, qui pourrait être probablement les meilleurs du marché, qui vont gérer avec la plus belle, on va dire qu'ils ont une Ferrari comme outil de sécurité pour opérer, ben c'est beau entendre parler, mais dans la réalité, si vous avez trois applications, exemple, ou quatre applications dans l'entreprise à protéger, comment vous faites pour savoir que quelque chose est vraiment une anomalie quand c'est juste une petite requête qui vient de passer direct parce que comme oups, malheureusement, j'ai pas assez d'échantillons pour te dire que c'est une anomalie. Ben, c'est tout ce genre de stéréotype-là qui fait que le endgame, si on peut dire, de tout ça, fait que je veux dire, comme Nicolas le disait plus tôt, c'est inévitable. On s'enligne vers quelque chose qui va regrouper beaucoup de clients ensemble parce que comment tu veux gérer quelque chose qui est une anomalie? On s'entend, une anomalie, là, c'est un beau mot, moi, que je trouve trop... on dirait que c'est pour du monde avec un PhD, là, mais souvent, là, que pour dire que finalement, c'est des statistiques pour dire c'est quoi le plus petit percentile de l'information qui ne matche pas avec tout le reste, là, tu sais? C'est là que moi, je pogne un bug, puis je suis comme, ben pourquoi pas simplifier tout ça, puis en mettre le plus possible dans le même panier, comme ça, on va être sûr que le petit pourcentile qui va sortir du lot, ben il risque d'avoir un problème, ce petit pourcentile-là. Il y a une raison pourquoi il existe, puis malheureusement, c'est ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le monde qui travaille de l'autre bord de la clôture, ceux qui sont du côté des méchants, si on peut dire, ou des vilains hackers dans un sens, c'est eux qui sont vraiment dangereux parce que eux autres, ils ont toute leur journée, ils ont toute leur fin de semaine à juste penser comment qu'ils vont justement trouver de nouvelles manières détournées de trouver des points d'entrée, de trouver des façons de contourner les règles de sécurité, de contourner des patchs de sécurité, puis de justement se faire passer pour quelqu'un d'autre ou justement, dans bien des cas, quelque chose qu'on me demande souvent, puis je pense que c'est un sujet qui voudrait quasiment une émission là, pour en parler. De passer par un VPN ou de se faire passer pour un autre pays pour arriver à ses fins. Tu sais, comme on peut en parler pendant des heures, je vois même des choses qui sont encore pires. Le monde, je suis un défendeur du cloud pour beaucoup de raisons. Puis autant que le cloud peut être autant dangereux quand tu te rends compte qu'un cloud a un réseau privé. Qu'est-ce qui arrive si on bloque l'Internet, mais le réseau privé du cloud lui-même contient, si on veut dire, des membres du crime organisé, côté informatique, on va se dire, là, qui ont eux-mêmes des serveurs puis qui dépensent des fortunes justement chez Azure, chez Google, chez Amazon, name it, pour justement pouvoir lancer des attaques à même le réseau de ces centres de données-là, puis que comme on se dit, ah ben ça vient de l'interne. C'est toutes des questions qui se posent, mais je vous en laisse sur la déduction de ce qu'on disait tantôt avec le beau tuyau plein d'eau sale. Là, ben là, plus que ça, l'eau qui rentre dans vos serveurs, je veux vous dire, vous êtes branchés sur une pipe qu'on appelle l'Internet.
Ouais, c'est assez troublant, mais effectivement, toutes ces affaires-là, parce qu'on a tendance à réfléchir sur les anciennes façons. Et le crime organisé, c'est déjà retourné de bord, ils sont déjà bien outillés en info numérique, là. Ils sont déjà là, fait qu'ils vivent dans cet univers-là depuis déjà longtemps. Fait que, puis vraiment, même avant les entreprises plus sérieuses qui ont pris du temps avant de faire le virage, fait que ça, ils l'ont fait. On va conclure là-dessus parce qu'on est en train de glisser sur d'autres choses aussi. Puis on fait déjà un bon bout de temps qu'on jase, qu'on va s'en garder pour d'autres. Toujours très intéressant. Là, on a encore parlé d'une panoplie, on ne sait jamais où ça va mener. Fait que ça va mener à plein d'endroits intéressants qui vont mener à plein d'autres façons de justement d'en parler justement sur les volets. Crime organisé, l'info numérique, tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Parce que je pense que les gens ne mesurent pas. Je te remercie énormément parce que c'est toujours très. Très agréable tout ça.
Ça fait plaisir. On va se revoir bientôt.
Oui.